Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore les nouvelles façons de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast, on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bienvenue sur Génération Remote. Aujourd'hui, j'accueille François Lecroix, qui est fondateur de Lemlist, co-fondateur de Lemlist. Lemlist, c'est une boîte qui est une start-up française dont on entend beaucoup parler en ce moment. Vous avez fait le buzz il n'y a pas très longtemps avec votre levée de fonds, ou pseudo-levée de fonds, on va dire. Levée de fonds, voilà, c'est ça. Et je suis hyper content de vous accueillir, enfin de t'accueillir toi sur ce podcast, parce que... Il y a beaucoup de gens de l'écosystème startup qui considèrent que Lemlist est un peu la boîte parfaite, ou en tout cas que pour l'instant vous avez fait une boîte, vous avez coché quand même pas mal de cases, que ça soit monter sans fonds extérieurs, grossir hyper vite comme si vous aviez levé, vous êtes en remote, vous avez fait un produit qui est, vous êtes basé sur une communauté, vous avez fait un produit qui a des super retours, enfin voilà. Donc très content de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu viens? Comment est-ce que tu en es arrivé à Lemlist? Qu'est-ce que tu as fait avant?
Avec plaisir. Donc, moi, c'est François Lecroix. Donc, je suis à Lille, dans le nord de la France. J'ai fait des études informatiques à la fac. Et ensuite, j'ai commencé à bosser 2 ans dans une boîte de diététique qui s'appelle Diétavenue. Et donc, je travaillais dans la partie informatique pour faire le site internet. Donc c'était 2 ans super super intéressant. C'était un projet en Perl, première fois que je faisais du Perl et tout. Et ensuite j'ai travaillé 5 ans chez Netask, donc c'est un fournisseur de firewall, donc des boîtiers physiques de sécurité, donc du hardware. Mais ils avaient une équipe en interne pour faire l'interface graphique qui était entièrement JavaScript. Donc pareil, là j'étais entièrement présentiel dans les bureaux. Et ensuite j'ai fait 7 mois à eFounders. Donc c'est un incubateur de start-up dans Paris, mais ils incubent leurs propres idées, leurs propres projets, et c'est grâce à mon frère Vianney que j'ai rejoint cette eFounders. Donc j'ai rejoint Vianney chez eFounders pour 7 mois. Il avait besoin d'un tech pour travailler sur des projets en interne au sein d'eFounders. Ça m'a permis de commencer à faire du remote, parce que je travaillais 2 jours sur Paris et 3 jours depuis chez moi. Et voir l'écosystème un peu des startups, tout ça, ça m'a bien branché. Avec Vianney, on s'est motivé et on a voulu créer notre premier projet qui était Lemtalk, Talkus à l'époque. Et on a bossé dessus pendant 2 ans. Ensuite, on a stagné un peu, on avait un petit MRR, mais c'était pas ça. Et on a eu la chance d'être à Station F, où on a rencontré plein de gens, on a pu... c'est là qu'on a rencontré Guillaume Moubèche, okay. Donc notre CEO. Et c'est avec lui que est venue l'idée de créer Lemlist, donc une plateforme de prospection par email. Et c'est là qu'on a commencé à lancer la vague des Lem. On a après créé Lempod, qui est un outil qui permettait de auto-liker et commenter des posts LinkedIn qu'on a revendu. Et on a renommé Talkus du coup en Lemtalk, qu'on a maintenant fermé parce que on n'avait plus de temps pour le maintenir et pour le garder à flot.
Du coup, quand t'étais au tout début, quand t'étais à Station F, t'étais en présentiel ou tu faisais moitié-moitié?
C'était comme avant, c'est-à-dire que je revenais 1 à 2 fois par mois sur Paris et donc je venais un peu à Station F et sinon tout le reste du temps j'étais chez moi dans mon petit appart.
Ok, et donc les débuts de Lemlist, si j'ai bien compris, c'était Vianney et Guillaume qui étaient à Station F en présentiel tout le temps, et toi en remote, c'est ça?
En fait, même Vianney n'était pas tout le temps à Station F, comme lui, il est dans la banlieue de Paris, à Saclay, qui en a pour 1h30, il met autant de temps que moi pour aller à Station F. Au final, il y allait de temps en temps, mais il n'y allait pas non plus trop souvent, quoi. C'est quand même beaucoup plus pratique de pouvoir travailler de chez soi, de ne pas se taper 3 heures de transport dans la journée.
Donc vous avez commencé Lemlist, enfin à l'époque le début de Lemlist a toujours été Vianney chez lui, toi chez toi à Lille et Guillaume à Station F du coup. Donc vous avez commencé en remote tout de suite, quoi.
Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Comme Guillaume, lui, était sur Paris, c'était pratique pour lui de bosser directement à Station F. Ça lui permettait d'avoir quand même un cadre de travail assez pratique, assez confortable.
Et des contacts aussi, j'imagine, vu que c'est le CEO, il doit avoir.
Oui, beaucoup de contacts. Mais lui, il aime beaucoup le relationnel. Il adore voir les gens, discuter, garder contact, échanger les idées, tout ça. Alors que moi et Vianney, on aime bien, on est plutôt casanier, on aime bien rester chez nous. Si on a besoin de discuter, ben, on se fait un call à deux et voilà quoi.
Ok. Et c'était, vous avez choisi le remote parce que juste contrainte géographique ou parce que, ou est-ce que vous aviez déjà expérimenté ça avant et vous avez envie de continuer? Enfin, est-ce que.
Alors Vianney, lui, il avait déjà fait du remote avant, vu qu'il était indépendant aussi. Quand il était à eFounders, il était aussi en remote partiel. Donc il allait de temps en temps sur Paris et sinon il bossait le reste du temps chez lui.
Ok.
Et c'est quand même, bah, c'est aussi une volonté, c'est parce que nous, on aime bien travailler de chez nous, on a un cadre qui nous plaît, on arrive à rester concentré, on sait qu'on est plus focus.
Ok. En fait, c'est relativement classique, je pense, quand tu démarres une boîte, surtout avec des gens sur différentes villes ou à différents endroits, de commencer avec du pseudo-remote. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que du coup, vous avez grossi depuis. Donc, vous avez commencé à 3, mais là, vous êtes plus du tout que 3. Et du coup, vous avez quand même choisi de garder du remote ou de continuer, parce que vous auriez très bien pu prendre un bureau à Paris, à la station F ou ailleurs, et puis dire, voilà, ça c'est maintenant nos bureaux, les fondateurs sont en remote parce qu'ils sont géographiquement pas forcément là, mais nos employés, il faut qu'ils soient sur place, vous auriez. Mais c'est pas ce que vous avez choisi, quoi.
Alors, à la base, moi et Vianney, nous, on est vraiment très pro-remote, on trouve ça vraiment très pratique et ça, pour nous, c'est que des avantages. Guillaume, lui, il aime bien avoir des gens avec lui, et donc on savait déjà quand on s'est associé que à terme, on allait avoir des bureaux, mais que ce sera plus pour les équipes qui seront gérées par Guillaume, et que nous, on va rester plus remote, et nos équipes, quand on grossira, sera remote. Et c'est
Ok.
après ça s'est fait aussi au fil de l'eau, c'est-à-dire que notre premier employé, c'est une personne qui est en Serbie, et en fait c'est parce que il nous a tanné pour qu'on bosse avec lui, donc on se dit bon bah vas-y, on va essayer à lui donner quelques missions. Il était freelance et au final ça se passait bien, il faisait du bon travail, Guillaume était content de ce qu'il faisait, ça lui permettait d'avoir du focus sur d'autres missions, et donc on a commencé à bosser de plus en plus avec lui. Au final, bah, il est resté en freelance parce que c'est compliqué d'embaucher quelqu'un à l'étranger, mais pour nous il fait partie de la boîte, et c'était comme un salarié quoi. Et au final il est remote parce que bah il est en Serbie, donc c'est compliqué, on n'allait pas le faire venir sur Paris en physique en permanence quoi.
Ouais, du coup c'est intéressant parce que vous avez un modèle un peu hybride. En fait, il y a là une partie de la boîte qui est, si je comprends bien, sur Paris en présentiel, dans des bureaux tout à fait classiques. Et l'autre partie de la boîte, qui est en gros la tech, si j'ai bien compris, t'as en gros sales marketing qui est en présentiel à Paris, et la tech qui est en remote. Parce que vous êtes combien maintenant au niveau
On
tech?
est un peu plus d'une trentaine en tout. Et en fait, on
Ouais.
est beaucoup plus que ça en remote au final. Parce que avec la première. Donc Vuk, notre premier salarié. Non, c'est notre deuxième. Il y a eu Ena avant, qui était une personne de support. Et c'est nos deux premiers salariés. Et au final, comme ils nous ont trouvé d'autres contacts, au final, on a quand même pas mal de gens dans les pays de l'Est qui travaillent pour nous et qui sont pas des commerciaux ou qui sont pas des développeurs. Donc on a des commerciaux et des personnes du marketing qui sont en remote,
Ah, ok.
que ce soit en Ukraine, à Chypre, en Serbie.
Ok, donc vous avez un modèle hybride, mais c'est pas forcément hyper hyper cloisonné, tech pas tech, quoi.
C'est
Ok.
ça, ouais. C'était plus à l'opportunité au final.
D'accord. Et du coup, comment est-ce que vous arrivez à gérer la communication entre les équipes qui sont sur place à Paris et les équipes qui sont pas sur place à Paris, qui sont partout dispatchées? Est-ce que ça pose des problèmes ou pas?
Alors globalement, bah, pour la communication, c'est Slack, donc pour tout ce qui est discussion courante. Et après, on est beaucoup sur Notion pour tout ce qui est documentation, les process, les infos à échanger, des choses comme ça, quoi. Beaucoup.
Est-ce qu'il y a de la perte d'information? Parce que moi, je sais que j'ai bossé dans des boîtes qui étaient comme ça, c'est-à-dire on va dire hybride. La moitié, moi, c'était vraiment tech. Donc la tech qui était en remote, Sur deux fuseaux horaires en plus, donc la tech en remote en Europe et puis le reste, donc le business on va dire aux US dans des bureaux. Et j'ai fait plusieurs fois des modèles comme ça. Et en fait, j'avais l'impression qu'il y avait des pertes de d'informations que nous en tant que techos on n'avait pas forcément toutes les infos. Et est-ce que c'est des choses que tu rencontres aussi avec Lemlist ou alors comment est-ce que tu fais pour réussir à choper les informations que les gens enfin voilà, est-ce que les gens à Paris entre eux ne s'échangent pas des trucs sans que toi tu sois au courant? Comment est-ce que tu fais pour
Alors ça c'est possible, mais le problème c'est que bah, comme je suis jamais à Paris, c'est compliqué de le savoir. Mais on essaye de pousser beaucoup à tous les gens à communiquer déjà pour via Slack. Et s'ils ont des choses inter-équipe, des sujets, de remonter à leur responsable pour que ça échange via les responsables pour aussi éviter. Bah, ça c'est les choses qu'on est en train de mettre en place parce que là l'équipe a beaucoup grossi ces derniers mois et on est en train d'essayer d'améliorer certaines choses parce que bah, typiquement la communication qui fait quoi? Est-ce que typiquement si quelqu'un a besoin d'un nouveau de faire des achats ou des choses comme ça, est-ce qu'on le laisse prendre le lead là-dessus ou est-ce qu'on préfère que ce soit le responsable qui le fait parce que lui il sait comment bien faire les factures et compagnie pour qu'il n'y ait pas des problèmes après de comptabilité. Donc tout ça c'est des choses qu'on est en train de mettre en place, donc c'est plus la communication on va dire un peu administratif. Après pour tout ce qui est chat, c'est plus compliqué. C'est vrai qu'il y a une séparation un peu entre tous ceux qui sont à Paris et ceux qui sont en remote. Mais on essaie de faire des petits jeux, des choses comme ça, pour essayer de forcer un peu les gens à communiquer entre eux, pour avoir créé un peu de cohésion. Et puis on organise des team building. Donc là, avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais on en a fait un en octobre, je crois octobre-novembre dernier. On est parti une semaine à Bodrum où on était tous à bosser ensemble. On a essayé de faire des activités, des jeux, des choses comme ça. Et ça a permis aussi de pas mal casser les a priori que certains pouvaient avoir sur d'autres, et ça a permis de souder un peu toutes les équipes et de pouvoir se voir en vrai aussi, quoi.
Ouais.
Ça permet de créer du
Alors en
lien.
fait, je parlais pas de gens qui essaient de faire une mutinerie dans leur coin ou tu vois qui essaient de cacher des trucs, mais en fait, c'est parce que j'ai l'impression que quand tu bosses dans un bureau, en fait, assez naturellement, il y a des choses qui se disent autour d'un café, tu vois, typiquement. Et quand t'es pas une boîte qui met en place des procédures de communication, en fait, on est remote first, c'est-à-dire que tout doit passer par Slack un jour ou l'autre, ou par n'importe quel autre chat, ou n'importe quel autre moyen, mais que les gens qui ne sont pas dans cet espace de café, justement, ils soient quand même au courant des informations qui s'y passent. C'est pour ça que je te posais la question, parce que, tu vois, il y a
D'accord.
toujours un peu, enfin, je trouve que c'est dur d'arriver à
Ouais.
faire passer les infos, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Je pense que pour ça, c'est compliqué parce qu'on peut pas forcer les gens à remettre toutes les discussions qu'ils peuvent avoir au coin de café parce que c'est souvent des discussions un peu pour reprendre sur un point qui sait que l'autre personne est au courant ou des choses comme ça. Mais pour l'instant, on n'a jamais eu de problème à cause de ça. Donc peut-être que pour l'instant, on n'a pas. Mais c'est compliqué. Je vois tout à fait hein, les petites conversations qu'on peut avoir au café. Ce qu'on essaie de faire là, c'est qu'on a créé l'Emverse, qui est un monde virtuel et qui permet de se voir en virtuel, mais dans des bureaux dans lesquels on peut se déplacer. Donc on a un avatar qui se déplace. Et pour l'instant, il n'y a que l'équipe tech qui l'utilise, mais ça permet de faciliter un peu la conversation. Tu peux facilement aller voir quelqu'un, tu peux faire une petite pause café comme ça, et ça permet de revoir ces discussions-là un peu. Informel, mais dans tous les cas, je vois pas comment on peut forcer les gens parce que même dans des bureaux, ces conversations-là, si t'y es pas, t'auras pas l'information. Donc au final, la communication, elle sera quand même, elle sera
Ouais,
manquante,
c'est
quoi.
vrai, c'est vrai. Tu m'as fait une démo la dernière fois qu'on s'est vu sur l'Emverse. C'est vraiment super intéressant. Et effectivement, je pense que ça ramène un peu de lien et puis ça ramène la possibilité de juste aller voir quelqu'un. Et en fait, dès qu'on s'approche de quelqu'un, hop, ça ouvre un chat vidéo et du coup, ça ramène un peu le côté conversation informelle autour d'un café. C'est vachement intéressant, je trouve.
C'est ça permet d'aller toquer à la porte d'un collègue sans trop le déranger. Et s'il veut pas être dérangé, de toute façon, il y a des endroits où on sait que si la personne est là, si elle est dans un phone booth ou quoi, c'est qu'il faut pas l'embêter. Et sinon, si elle est juste à son poste de travail, on sait qu'on peut aller le voir, faire un petit coucou. On a la caméra, on sait s'il est parti peut-être aux toilettes vite fait sans avoir déplacé son avatar et pouvoir avoir une petite discussion comme ça, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Et sinon, on peut se mettre sur le côté, et comme ça, on sait que s'il y a des gens sur le côté qui sont en train de discuter, on peut aller les voir pour dire, ah, tiens, on parlait de quoi, savoir de quel sujet, et tout ça.
Et donc les listes, donc à part les gens qui sont en présentiel, vous êtes en full remote, c'est-à-dire que vous voyez quelques fois par an, quand il n'y a pas de Covid, pour des opérations team building, mais sinon vous voyez jamais en fait.
Alors, pour l'instant, c'est comme ça. Mais on va mettre en place des... C'est encore en discussion entre fondateurs, donc pour l'instant il n'y a encore rien de fait, mais on aimerait pouvoir proposer aux employés de pouvoir venir de temps en temps remonter sur Paris, ceux qui le souhaitent, pour quelques jours, une semaine, pour pouvoir aller dans les bureaux de Paris, voir les gens, voir les équipes, en plus des team building, ça, pour justement réussir à nouer un peu plus de liens entre les différentes équipes et puis permettre aux personnes qui sont en remote de pouvoir profiter des bureaux qui sont à Paris.
Ok. Et alors du coup, est-ce que les gens qui sont en remote, ils travaillent de chez eux tous, ou est-ce que ils ont en ce moment c'est un peu compliqué, mais est-ce qu'ils travaillent depuis des espaces de coworking, ou est-ce qu'ils se mettent en, enfin tu vois, je sais pas.
Alors l'équipe tech est très à travailler chez eux et je sais que certaines personnes dans l'équipe support sont même bien aller travailler dans un petit café ou dans un coworking pour se changer quoi.
Ok.
Donc là c'est sûr qu'avec les conditions actuelles c'est un peu plus compliqué mais voilà chacun fait un peu ce qu'il veut et bosse là où ça l'arrange quoi. On va pas obliger des gens qui ont peut-être un petit appart ou qui comme moi à une époque j'avais un appart qui était super bien mais exposé plein sud avec une mauvaise isolation donc autant dire qu'en été c'était le sauna j'étais content de pas travailler de chez moi ces jours-là quoi.
Ah. Et du coup, comment est-ce que vous l'imaginez, le truc des bureaux ouverts sur Paris là? Tu vous imaginez ça en fait, où chacun peut venir un peu quand il veut, ou vous allez faire une semaine par mois, tu vois, où...
Je pense que ce sera pas l'idée de faire venir beaucoup de gens ensemble. Ce sera juste peut-être une ou deux personnes quelques jours. Après, comme je t'ai dit, on n'a pas beaucoup discuté vraiment factuellement de comment ça va être mis en place. Mais je pense que l'idée, c'est dans l'année que les gens puissent venir quand s'ils ont envie de venir, qu'ils puissent venir une ou deux fois dans l'année, je pense, dans le bureau. Pareil, on n'a pas beaucoup discuté de ça, donc je ne sais pas si vraiment on voudrait qu'ils viennent très souvent, ou genre chacun puisse venir une fois par mois, ou si c'est plutôt une à deux fois dans l'année. Mais l'idée, c'est que tout le monde puisse savoir venir dans les bureaux de Paris,
Ok,
quoi.
et l'idée c'est pas de leur dire bon, à partir du mois de mai ou de juin là, vous devez venir une semaine par mois, la première semaine du mois est forcément une semaine sur Paris, quoi.
Non, non. Non, non, c'est pas du tout l'idée. Déjà, on veut obliger personne, parce qu'on sait qu'il y a des gens, ils n'auront pas envie. Il y en a qui sont un peu loin et qui vont venir sur Paris, ça leur prend toute une journée. Et puis, le but c'est pas de forcer, c'est juste de proposer à ceux qui le souhaitent de
D'accord.
venir, parce que on sait que, ben, je suis certain que certains seront intéressés de venir sur Paris pour voir le reste de l'équipe. Et puis, c'est l'occasion aussi de se changer un peu les idées, d'être dans un autre environnement, de pouvoir avoir des discussions un peu plus informelles sur d'autres choses. Donc c'est ça. Et sachant que toute l'équipe tech est en remote, mais moi et Vianney, on vient quand même assez régulièrement sur Paris.
Ok.
Mais c'est toujours, c'est plus. Vianney vient plus régulièrement que moi, et moi je viens surtout quand on a des discussions importantes à avoir ou qu'il y a un événement un peu particulier.
Ok.
Des fois on a eu un milestone, on a eu le premier million ou des choses comme ça d'ARR. Hop, ça se
Ah, c'est
fête.
clair. Ah oui, c'est important de célébrer, quoi. Je pense aussi que c'est, ouais, hyper important, donc de célébrer ensemble, et puis aussi de juste rencontrer ses collègues en fait de temps en temps, d'avoir des discussions autour d'un café, de prendre une bière le soir avant de partir. Est-ce que toi t'as vu la différence avant et après le team building? Tu me disais que t'avais fait un team building en Turquie, c'est ça?
Ouais, effectivement, avec certaines personnes que je voyais, on discutait beaucoup moins et depuis le team building, ben, c'est chanté qu'ils hésitaient beaucoup moins à venir me voir sur Slack, à discuter, à me parler en privé ou me pinguer sur des choses. C'est vrai que des fois, dans Slack, on peut être un peu direct, un peu rapide. Et des fois, ça peut paraître un peu froid, et donc du coup, bah, surtout quand tu es fondateur, un autre employé, bon, il va rester un peu sur ses gardes, alors qu'une fois que tu l'as vu, que tu sens qu'il n'y a pas de souci, qu'il y a une bonne entente, et bah, du coup, ils se lâchent un peu plus et ils n'hésitent pas à contacter plus facilement les gens.
Ah ouais, c'est intéressant. Ouais, du coup, comment est-ce que vous faites pour à la fois recruter, onboarder les gens, et comment est-ce que vous arrivez à après les manager au jour le jour? Donc peut-être d'abord commencer par le recrutement et l'onboarding.
Donc pour le recrutement, on passe par une plateforme qui s'appelle Welcome to the Jungle. Donc c'est là qu'on récupère la plupart des profils. Et sinon, on a aussi quelques chasseurs de tête avec lesquels on travaille, qui essaient de nous trouver des profils qui vont bien, des profils remote et plutôt start-up pour rejoindre un peu notre esprit. Et surtout des seniors, parce que on préfère travailler. Ben pour l'instant, on n'a pas assez de ressources, on a beaucoup de retard et le projet est très compliqué avec certaines. Par exemple, on a pris des décisions de ne pas faire de tests, donc parce qu'on considère que nous, on sait ce qu'on fait, mais du coup, maintenant, il faut prendre des gens qui savent assez bien ce qu'ils font et qui savent qu'ils peuvent travailler sans avoir trop de tests derrière eux pour les sauver s'ils font des conneries, quoi. Pour le onboarding, on a Elodie qui est notre assistante de direction qui nous aide pour qui est aussi notre chef. Office Happiness qui gère tout le onboarding, donc vérifier que la personne ait bien le matériel, qu'elle aura bien un ordinateur quand elle nous rejoindra, que si elle a besoin de matos en plus, elle puisse l'avoir, et qui va lui présenter la boîte, lui expliquer un peu comment ça marche, lui expliquer aussi Notion potentiellement, pour qu'elle puisse voir les points d'entrée, parce que dans Notion, on a une page qui décrit comment se passe la première journée, ce qu'il faut comprendre, comment fonctionnent les applications, comment fonctionne Slack, quels sont les outils qu'on utilise. Toutes ces choses-là pour pouvoir bien travailler ensemble et bien communiquer. Typiquement, dans Slack, on a certaines règles du genre ne pas envoyer de petits messages les uns après les autres. Si tu as quelque chose à dire, mets tout de suite ton message complet. Si tu veux dire bonjour, il n'y a pas de souci, mais tu mets bonjour et tu fais un retour à la ligne. Et mais dans le même message, tu mets tout ce que tu veux dire. Comme ça fait qu'une seule notification. Parce que typiquement, moi et Vianney, on met les notifications en très important sur beaucoup de channels. Et si on commence à avoir 10 notifications pour nous donner qu'un message qui en plus n'était même pas destiné à nous, potentiellement, ça va couper notre productivité et donc potentiellement couper la productivité de tous les employés. Donc c'est plein de petites règles comme ça.
Et sur le recrutement, du coup, je vais revenir un peu en arrière. Sur le recrutement, du coup, vous faites, j'imagine, plusieurs entretiens. Et du coup, vous faites tout à distance, même le test technique et tout ça.
C'est ça, ouais. Tout est fait en remote, donc généralement sur un Meet. Donc là, il y a généralement deux, trois entretiens. Donc la plupart du temps, c'est Vianney qui fait le premier entretien. Il teste la personne, bah, il teste pas vraiment la personne, mais il voit sa personnalité, si c'est un bon fit, si c'est un bon fit. Moi, je fais souvent le test technique, donc il y a un petit exercice sur Meteor à faire où je le guide et je vois comment il arrive à avancer dessus, comment il se débrouille.
Ok.
Et après ça, il y a souvent un troisième entretien avec Guillaume pour, bah, pareil, c'est plus un fit pour voir si c'est un bon fit émotionnellement avec l'entreprise, quoi.
Ok. Et du coup, sur le onboarding,
Et du coup,
c'est tout en remote aussi. Vous faites pas venir.
entièrement en remote.
Ok.
Bah, en fait, si la personne est sur Paris, oui,
Ok.
il peut venir sur Paris s'il a envie, mais sinon, de base, c'est remote. Et une spécificité pour les techs, ce qu'on fait avec Vianney, c'est que généralement, on se déplace tous les deux, si elle est prise, chez la personne, pour passer une semaine chez, bah, pas chez lui, mais on prend Airbnb assez grand, et comme ça, on a un grand salon, il vient, il nous rejoint, mais dans la ville où il travaille. Pour passer une semaine ensemble, comme ça fait une semaine d'intégration, on peut lui partager un maximum d'informations, de la philosophie, des règles qu'on nous on s'est définies. Et donc du coup, ça lui permet de vérifier qu'il a tout en main, que son PC est bien installé, que l'application fonctionne bien, qu'il a bien compris comment on travaillait. On essaie de lui trouver une ou deux petites tâches sur lesquelles bosser, comme ça avec lui on peut avancer, nous on peut avancer sur d'autres choses en attendant, et après on revoit avec lui, on fait un point, comment il a fait les trucs, comment il voit ce qu'il a fait, les retours qu'on peut lui faire dessus.
Et ça, c'est
Ouais,
super
c'est
intéressant,
plutôt pas
ça.
mal parce que ça permet de créer un lien tout de suite avec la personne. On la voit pendant une semaine, on passe matin et soir ensemble, on mange le midi ensemble, c'est très cool. Si possible, le soir, on essaie de faire des petites soirées pour une ou deux soirées pour avoir des petits moments décontractés ensemble. Ouais, franchement, on a pu faire ça à chaque fois, c'était vraiment chouette.
Ouais, parce que
Puis nous, ça nous permet.
Le onboarding en remote, ça peut être un peu froid, quoi. On t'envoie un PC, on te dit voilà, tu te connectes à la doc et puis tu lis la doc.
Ouais, c'est
C'est
ça.
chaud, quoi. Ouais. Intéressant.
Ouais, c'est pour ça que après en remote, on essaie, comme on est en remote, on essaie beaucoup du coup de faire des calls avec la nouvelle personne pour voir si tout se passe bien. On essaie de la pinguer régulièrement, voir si elle a des blocages, comment ça avance et si on peut l'aider. Maintenant, c'est un peu le travail qu'on fait Vianney et moi, c'est que on développe quasiment plus, mais on passe beaucoup de temps soit avec les équipes, soit les nouveaux pour les débloquer, pour leur donner des conseils sur des choses, sur l'architecture de choses, pour qu'ils comprennent comment ça a été fait et pourquoi c'est fait comme ça et quelles vont être les limites s'ils ont besoin de développer dessus, de faire des fixes.
Et du coup, vous avez parce que là, vous avez recruté beaucoup de personnes, vous avez amélioré le process au fur et à mesure, et là, maintenant, ça roule ou il y a encore des choses qui coincent un peu?
C'est ça, au fur et à mesure que les gens sont arrivés, on a amélioré les process. Donc au début, on avait un process qui marchait très bien pour moi et Vianney. Alors on a travaillé avec deux personnes à l'étranger qui parlaient anglais. Comme en fait moi et Vianney, on a un très mauvais niveau d'anglais, on s'est rendu compte que ça allait pas du tout le faire. Donc on a arrêté assez vite avec eux. Et du coup, ça nous a déjà poussé un peu à essayer de mettre un certain process en plus sur notre premier système de to-do list. Au fur et à mesure que l'équipe est arrivée, on a bien senti que notre petit système de to-do list était un peu trop limité et qu'il fallait commencer à architecturer ça. Donc, généralement, c'est un peu comme ça qu'on fait dans le développement chez Lemlist. On itère beaucoup. On fait un truc efficace, qui marche bien, et au moment où il devient plus efficace, on l'optimise, on le retravaille et on l'améliore. Donc là, typiquement, quand les gens sont venus, on voyait bien qu'il y avait des blocages, que ça allait pas. On a passé une journée ensemble avec Zané, une ou deux journées, et on a retravaillé toute la to-do list pour refaire quelque chose de beaucoup plus carré et beaucoup plus utilisable pour toute l'équipe, pour qu'elle puisse savoir où elle en est, ce qu'elles ont à faire, ce qu'elles peuvent travailler, sur quoi elles peuvent travailler, qui s'occupe de quoi, voilà, et avoir une meilleure vue d'ensemble, quoi.
Ok, et du coup, passer cette période recrutement, onboarding et vraiment le début, après, comment est-ce que vous arrivez à manager les équipes? C'est juste avec la mise à jour de la to-do list et puis chacun a ses tâches et ça roule ou vous avez des...
En fait, on prend beaucoup de seniors exprès pour avoir des gens très autonomes. Et donc, c'est l'idée, c'est qu'elles puissent prendre les tâches et se débrouiller pour avancer dessus, soit voir après avec un autre collègue s'ils ont besoin de quelqu'un, mais être le plus autonome possible. Nous, on essaie d'avancer la roadmap pour raffiner un peu les tâches et les rendre plus compréhensibles et avoir aussi la vision un peu globale de l'application vers où on veut l'avancer.
Et du coup, vous faites des points, vous avez genre des daily, un stand-up meeting tous les matins, par exemple, ou vous faites un truc toutes les semaines, ou même pas, en fait, ça roule au fur et à mesure des... Quand une tâche est finie, vous faites le point, ou...
C'est ça, c'est tout le monde roule on est en développement continu, donc dès que quelqu'un travaille, alors typiquement nous c'est un de nos trucs, c'est qu'on est no branch, donc il n'y a que master et tout le monde push dedans. Et on force les gens à faire des petits commits et des petites modifs et pusher au fur et à mesure, et si essayer de travailler le plus possible avec des choses qui n'ont pas d'impact. Généralement, ça pose rarement des problèmes. C'est rare qu'on a besoin de pusher un énorme truc monstrueux d'un coup qui risque de tout péter. C'est très mauvaise pratique. Vaut mieux mettre d'abord les petites briques au fur et à mesure, quitte à mettre d'abord des briques fonctionnelles qui sont indépendantes et qui ne seront pas appelées. Et une fois qu'on a besoin de brancher le tout, là, on branche le tout. Et s'il faut, on a un système de bêta feature où on peut dire que la fonctionnalité sera active que pour telle ou telle équipe dans la liste, pour
Okay.
que l'équipe client. Pour qu'on puisse tester la feature, donc la tester d'abord sur nous, et puis si elle marche bien, la tester à l'ouvrir à d'autres clients, et après l'ouvrir à tout le monde.
Donc en fait, vous faites pas de test et vous faites pas non plus de pull request quoi, donc ce qu'on appelle dans le milieu de la tech la pull
Non.
request. Ok. Et du coup, est-ce que vous faites de la revue de code ou vous faites confiance au dev?
Alors, on fait de la revue de code. On demande à tout le monde. Donc on a tous les commits dans Slack qui sont pushés et on demande à toute l'équipe d'essayer de regarder au plus possible les commits des autres. Donc on s'est mis une petite règle d'essayer de garder 10 à 15 minutes tous les jours. Donc on l'a fixé à midi, mais chacun peut le déplacer comme il veut, s'il veut. Mais on veut pousser l'équipe à toujours faire du review de code des autres. Comme ça leur permet de partager l'information, de voir ce que les autres ont fait, mais aussi ça permet de débusquer des petites erreurs, des typos, des choses qui peuvent arriver et donc les fixer au plus vite, quoi.
Mais du coup, il review après que ça soit poussé?
Mais en vrai, c'est pas un problème parce que généralement, C'est rare qu'ils commettent des choses qui sont problématiques. S'ils commettent quelque chose de problématique, ben, soit c'est vraiment problématique et on va le voir tout de suite. Donc on est alerté tout de suite, on fait le fixe et on le push dans les 10 minutes qui suivent, c'est fixé.
Ouais.
Et soit c'est pas problématique et donc ben, on s'en fiche, ça pourra attendre le déploiement du lendemain, par exemple. Parce que typiquement, on essaie de déployer au moins une fois tous les matins. Et après, on peut déployer deux, trois fois par jour selon si on a des choses importantes à remonter. Mais généralement, on essaie de au moins tous les jours de déployer un truc. Donc ça fait qu'aussi, il n'y a pas beaucoup de retard entre la production et le développement. Donc tout est à jour assez vite, quoi.
Ok, ah, c'est intéressant au niveau de la pratique de dev, c'est intéressant. C'est original, on va dire. C'est un peu en dehors des clous.
Ouais, c'est pour ça aussi que Vianney va lancer son blog pour parler un peu de tout ça, des pratiques qu'on a qui sont assez atypiques et au final qui pour nous marchent très bien et qui posent pas de soucis, quoi. Mais typiquement, c'est là aussi où si on voulait prendre des qui nous force à prendre des développeurs assez seniors parce que on veut éviter de prendre quelqu'un qui ferait vraiment du code qui a besoin d'être vu en permanence parce que ou d'être review en permanence parce que il fait pas du quelque chose de correct, il n'arrive pas à écrire quelque chose de correct dès le début, quoi.
Donc en fait, il y a vraiment
C'est
ce que moi j'entends là de ce que tu me racontes, c'est il y a une vraie histoire de confiance quoi. Vous faites hyper confiance au mec, enfin en tout cas au développeur, il y a une vraie confiance entre parce que les gens ils poussent tout de suite, donc ils changent l'application directement sans que personne n'ait quoi que ce soit à valider ou quoi que ce soit ou rien quoi. C'est juste je pousse tout de suite quoi.
Bah, si ça build, c'est que c'est. Pour nous, c'est que c'est. Bah, même pas, parce que en vrai, le build, c'est du JavaScript, donc
Donc ça build.
c'est juste de la minification, mais c'est un build qui vérifie pas grand-chose. Mais généralement, oui, on fait confiance. Et comme on dit, franchement, les rares fois où il y a eu des soucis, soit c'était un souci qui a pu complètement attendre le lendemain, soit c'est un truc, ça a traîné 3 jours, et en fait, on l'a aperçu après, mais personne s'en est plaint, donc en vrai. C'est pas très
Ouais,
grave.
c'est pas très
En fait,
grave.
c'est toujours l'effet de bord du bug, quoi. Il est pas toujours aussi important qu'on le croit, quoi.
Et en fait, donc ce qui vous intéresse, vous, le plus, c'est d'aller vite, quoi. C'est ça? Si je comprends
Ouais.
bien, c'est l'important,
On
c'est d'aller vite, et puis vous ferez
préfère
mieux plus
être
tard, quoi.
flexible et pouvoir corriger vite qu'avoir une infrastructure de test et compagnie, et que si on a un problème en production, qu'on soit alourdi par tout ça pour sous prétexte d'avoir des tests et de nous protéger, tu vois.
Ok. Et c'est quelque chose qui a évolué avec le temps, ou c'est quelque chose que vous avez depuis le début, cette histoire de nos branches, je pousse en production tout de suite?
Ça, c'est ce qu'on avait depuis le début. Il y a des moments où on a eu un peu de mal parce que le build était lent, le déploiement était lent, donc on a passé du temps après sur nos outils pour les améliorer. Mais c'est quelque chose qu'on a eu depuis le premier jour. Et c'est ça aussi qui fait qu'on a une application qui évolue aussi vite. Tout le monde nous dit c'est incroyable, il y a tout le temps des nouveautés. Mais c'est parce que tous les jours, potentiellement, il y a une nouveauté qui arrive en production, quoi.
Ouais, et du coup, ça a un impact sur le business. C'est-à-dire que les clients sont contents parce que vous mettez en place plus vite les features qui sont demandées, quoi, c'est ça?
C'est ça. Après,
Ok.
c'est surtout les features que nous, on a prévu de faire. C'est rarement les features que le client demande. Ça arrive souvent. La plupart des features que les clients demandent, on les fait pas parce qu'ils ont des features trop spécifiques pour leur cas ou des choses trop ésotériques qui iront pas pour tout le monde. Mais après, c'est vrai que des fois, il y a des clients qui demandent des features et moi, je leur code dans l'heure et je la déploie dans la foulée. Et 1 heure après, je leur dis, bah, c'est bon, c'est là. Et ils sont.
Ouais, c'est dingue.
C'est incroyable pour eux, quoi.
Ouais.
Et ça, c'est une expérience qu'on est content de pouvoir fournir à nos clients, quoi.
Et alors du coup, comment est-ce que vous voyez dans le futur? Alors, je sais pas si tu y as pensé, mais est-ce que vous continuez ce mode full remote comme ça, avec entière confiance aux personnes? Est-ce que tu penses que c'est un modèle qui peut scaler? Parce que là, vous êtes quand même bien parti pour grossir encore bien plus. Donc là, vous êtes à 30. Est-ce que tu penses que tu peux arriver à 100 personnes avec le même modèle? À 1000 personnes avec le même modèle?
Alors, peut-être pas 1000 personnes. Le truc, c'est que, alors nous, pour l'instant, sur nos projections, on va essayer de ralentir un peu le recrutement. On a envie de stabiliser surtout les équipes pour l'instant. Donc après, on reste ouvert parce qu'on sait que recruter un bon développeur senior qui a tout ce qu'on demande
Ouais.
comme compétence, c'est compliqué. Donc on reste ouvert, mais pour l'instant, on cherche pas non plus à recruter à tour de bras et à faire comme d'autres startups qui embauchent des centaines de salariés tous les mois. Et je pense que si on veut arriver à ça, clairement, il y aura des choses à mettre en place. Typiquement, on sait que là, on a toujours fonctionné sans test. parce qu'on pouvait se le permettre. Mais on sait que dans les prochaines années, si on continue à grossir, il va falloir peut-être reprendre un peu plus de développeurs juniors. Et globalement, même sans junior, je pense que même pour nous, il va falloir commencer à rajouter des tests sur certaines parties qui sont un peu critiques pour se garantir qu'il n'y aura pas de problème là-dessus, quoi.
Mais ça sera en remote quand même, même si tu embauches des
Mais
juniors.
clairement, je pense que dans tous les cas, ouais, dans tous les cas, la tech, c'est sûr et certain, pour nous, ça sera remote. Ça fait pas de sens de l'avoir au bureau. Dans un bureau, nous, déjà, il y aura personne de l'équipe quasiment. Donc, il va se retrouver tout seul avec l'équipe marketing et sales. Et potentiellement Vianney et moi qui allons venir de temps en temps. Donc, il n'y a pas tant d'intérêt. Après, si on a quelqu'un qui est recruté sur Paris et qui a envie de venir dans le bureau, on va pas lui interdire non plus. Mais ça sera jamais une obligation, ça, c'est sûr.
Ok, et pourquoi est-ce que tu choisis du remote, à part le fait que du coup l'équipe est forcément en remote, mais quels sont les avantages que ça t'apporte toi en tant que fondateur d'une boîte d'embaucher des gens en remote?
Potentiellement déjà c'est payer des bureaux moins chers parce que des bureaux ça coûte un certain prix. C'est aussi pour ça qu'au début on n'avait pas de bureaux, parce qu'on n'avait pas les moyens de se payer des bureaux, donc c'est aussi une contrainte financière. On voit pas pourquoi se forcer à rajouter des contraintes de devoir avoir du personnel, des gens pour gérer des bureaux sur place, alors qu'ils pourraient être chez eux, avoir la flexibilité de pouvoir faire une pause, aller chez le dentiste facilement, sans devoir faire des allers-retours, parce qu'en fait, ils ont dû venir au bureau avant, puis après aller chez le dentiste chez eux, mais revenir au bureau et faire des allers-retours dans tous les sens comme ça. Ou s'ils ont besoin d'être dépannés, s'ils ont une urgence à faire, de ne pas devoir perdre du temps dans des trajets inutiles, quoi.
Et dans l'autre sens, les gens que tu as recrutés, donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu penses que c'est plus facile et que ça rend les gens plus heureux, en gros, que c'est plus simple de leur vie de tous les jours. Est-ce que les employés, est-ce qu'ils ont les mêmes retours? Est-ce que tes employés ont le même retour? Est-ce que quand tu leur dis c'est du full remote, ils sont contents? Ou est-ce qu'il y en a qui disent que ça gêne un peu? Est-ce qu'il y a des gens qui. Toi, quels sont les
Bah,
retours?
le problème, c'est que dans l'entretien, nous, on leur dit tout de suite que c'est du full remote. Donc, on cible déjà des gens qui sont intéressés par faire uniquement du remote. Donc après, je pense que eux, s'ils ont choisi de faire du remote, c'est justement parce que ça les a arrangés, ça leur a évité de faire des déplacements inutiles, ou que c'est des gens qui sont un peu en banlieue, et donc ça lui évite de devoir aller dans le centre, dans la, en centre-ville, dans les bouchons tous les jours, des choses comme ça, quoi.
Ouais, ok.
Et généralement, ceux qu'on a, ils ont tous un bureau bien au calme, pouvoir travailler correctement, et ils ont des conditions de remote. Ils se mettent en, ils se donnent les moyens de pouvoir faire du remote.
Ok, donc ouais, vous embauchez des gens qui sont déjà avertis au remote, quoi. Vous embauchez pas des gens qui arrivent par
Et
hasard.
ouais, c'est ça. Après, je voulais revenir aussi sur ton point sur les meetings, parce que du coup, je suis parti un peu vite sur d'autres choses. On a un meeting tous les lundis après-midi avec toute l'entreprise sur Zoom. Donc, c'est un meeting obligatoire où on leur demande. Ce meeting-là a pas mal évolué avec le temps, parce qu'au début, on n'était pas nombreux, on faisait un tour, tout le monde se disait un peu bonjour, expliquait un peu sur quoi ils travaillaient, tout ça. Mais après, quand c'est devenu un peu gros, c'est devenu compliqué. Donc, c'est devenu tous les chefs ont commencé à expliquer un peu les avancées. Et après, on s'est dit, ce serait cool aussi de mettre en avant certaines personnes. Donc, maintenant, le meeting commence par Guillaume qui présente un peu les dernières choses qui sont arrivées, les prochains objectifs,
Ok.
et un peu des kudos, des félicitations pour les employés, pour l'employé de la semaine, on va dire, pour les employés de la semaine qui ont réussi à faire des trucs super cool, genre un sales qui a réussi à close un super deal, un dev qui a réussi à déployer une super feature ou qui a fixé un gros bug, tout des choses comme ça, quoi.
Ok, intéressant.
Et après, en dev, on se fait un meeting tous les vendredis après-midi pour faire un point sur les features. Comme je disais, tu sais, on a un système de feature flag où on active des fonctionnalités, et en fait, elles passent dans différentes étapes. Donc, il y en a qui sont privées, qu'on garde juste en interne pour pouvoir les activer, pour pouvoir les tester en prod, et après, on les retire. Et après, sinon, elles ont un suivi de, elles passent d'abord pour les personnes qui sont invitées. Donc là, c'est l'équipe de support ou de sales qui va pouvoir rajouter la feature à certains clients qui le demandent. Et une fois qu'on a pu tester, qu'on a eu des bons retours clients, on passe la feature en open. Donc là, c'est-à-dire qu'on a une section lab dans l'application où chacun va pouvoir l'activer. Et après, on va la passer en activée pour tout le monde. Comme ça, c'est tout le monde qui l'a. Mais en même temps, on a toujours la feature qui peut être débranchée si on veut. Et après, on met la feature pour tout le monde. Donc tous les vendredis, on fait un point sur les différentes features, savoir quelle va passer dans tel mode, quelle nouvelle feature arrive quelles sont les features qui vont être supprimées ou celles qui vont être en invite pour pouvoir le dire le lundi. Ah bah voilà, il y a telle ou telle nouvelle feature qui vont pouvoir arriver, n'hésitez pas à les faire tester aux clients et des choses comme ça. Et donc c'est un petit point mood de la semaine, un point feature et après les petites une
Et
discussion,
tout.
savoir ce qu'ils peuvent voir, qu'est-ce qu'ils trouvent qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur ancienne boîte qui pourrait être bénéfique à reprendre ou des choses comme ça, quoi.
Ok, intéressant. Intéressant. En fait, du coup, tu me dresses un tableau hyper avantageux du remote. J'ai l'impression que enfin, que vous êtes d'ailleurs tous très convaincus du remote. Et même tes employés, en fait, de ce que tu me racontes, ça a l'air vachement positif. Comment est-ce que tu, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui veut lancer une boîte et qui du coup se pose la question de soit de commencer en remote, soit de basculer peut-être en remote avec maintenant avec le Covid et tout ça. Voilà, quel conseil tu donnerais?
Moi, mes conseils, ce serait, faut vous ayez confiance dans vos employés. Si vous n'avez pas confiance, basculez pas en remote. Ouais, déjà, c'est qu'il y a un gros problème de base qu'il faut résoudre. Si vous n'avez pas confiance dans vos employés, c'est pas la peine, quoi. Je sais que dans une ancienne boîte où j'ai travaillé, on avait une seule personne qui était en remote parce que c'était un cas très particulier. J'ai déjà entendu, donc c'était un collègue et on avait le même chef et j'ai déjà entendu mon chef sortir. Ouais, putain, mais il est jamais là quand j'ai besoin de lui, il y a un bug dans son truc, pourquoi il est pas là? Je dis, bah il est pas là, il est peut-être en pause, il fait sa vie, quoi, il est pas là, c'est pas grave. S'il y a un bug, bah faut juste faut lui remonter, et ça a pas besoin d'être une urgence comme ça. Je trouvais ça un peu dommage, le manque de confiance qu'il avait en lui, de s'inquiéter comme ça, pourquoi il est pas là, et des choses comme ça, quoi. C'est un peu dommage, quoi. Pour moi, le remote, ça prouve aussi que tu as confiance dans ton employé et que ton employé a confiance en toi, que faut pas être là à le stalker en permanence, à vérifier qu'il travaille. Si tu l'as embauché et qu'il a passé les entretiens, normalement, c'est qu'il a envie de bosser pour toi et que toi, tu as envie qu'il travaille pour toi et que tu es prêt à lui faire confiance, quoi.
Et du coup, comment est-ce que toi, tu vérifies qu'il travaille?
On le vérifie pas. Ah, c'est les fonctionnalités. Typiquement, on fait confiance. On va pas derrière le dos. On fait confiance. Après, c'est si on voit qu'il n'a pas fait beaucoup de fonctionnalités, bah, on essaie de voir qu'est-ce qui se passait. Mais généralement, il est bloqué sur certains trucs. Il y a des choses qui ont pris plus de temps que prévu. Il y a des problèmes qui ont surgi entre deux. Après, bah, des fois, dans la vie, on peut être un peu moins productif. Il n'y a pas toujours besoin de raison. Tu vois, ça arrive à tout le monde d'avoir un coup de mou, d'avoir des mauvaises nouvelles personnelles aussi, qui font que, bah, on est moins productif, d'avoir une mauvaise semaine. Moi, ça m'arrive d'avoir une semaine où quasiment 3 heures d'affilée, j'ai pas réussi à avoir des insomnies un peu et j'ai mal dormir. Bah ouais, je vais être moins productif et c'est tout. Faut l'accepter et faut essayer de se remettre en condition pour avancer. Et voilà, quoi. Et après, un conseil, c'est la communication, mettre en place des outils pour communiquer. Moi, j'ai vraiment vu une grosse différence avec l'Emverse quand on l'a introduit. C'est avec l'équipe tech, on discutait un peu de temps en temps comme ça, mais une fois qu'on a mis l'Emverse, qu'on l'a essayé un peu, on a vu tout de suite que ça a libéré vraiment la communication où on pouvait se pinguer et on parlait beaucoup plus avec les autres salariés. Alors qu'avant, on utilisait déjà d'autres outils comme Screenero ou Screen ou Tandem, qui sont des outils qui permettent de facilement contacter n'importe qui de l'équipe et de faire un partage d'écran facilement, tout ça. Mais malgré ça, je trouvais qu'une fois qu'on était dans l'inverse, ça a débloqué un petit truc qui fait que la communication passait beaucoup mieux, quoi.
Ouais, c'est. Je suis d'accord avec toi, moi, pour avoir vécu aussi en remote sur pas mal d'entreprises différentes, la communication c'est hyper important. Et en fait, c'est aussi hyper important parce que donc tu perds l'information, et puis aussi parce que il y a un moment où le salarié ou le travailleur, on va dire, il peut se sentir un peu seul. Enfin, tu vois, c'est un peu compliqué des fois. Et donc, effectivement, moi j'ai passé un peu de temps dans des boîtes où les seuls modes de communication, c'était des calls audio, donc pas de vidéo, et juste du Slack et un peu d'audio de temps en temps. Et c'était assez compliqué. Je trouvais qu'on perdait beaucoup d'informations et qu'il y avait plus, on n'avait plus du tout cette espèce de proximité avec les collègues, quoi. Même si on s'appelait presque tous les jours en audio, c'est pas du tout la même chose que faire de la vidéo ou l'inverse du monde virtuel, là, qui est encore plus intéressant parce que là, tu rajoutes un peu une dimension physique au truc, même si c'est virtuel.
Ouais, puis c'est rigolo. C'est rigolo de voir aussi les collègues qui sont entre eux, qui discutent. Ah, ok, ils sont en train de bosser à deux sur. Bah, c'est sûrement sur ça. Ou tu. Bah, toujours intéressant de voir que y a. Ils sont pas tous devant leur bureau, dans leur coin. Tu vois, ils créent des interactions aussi entre eux, quoi.
Et donc, ok. Donc, les conseils pour un nouveau, c'est faire confiance aux employés, sinon ça marche pas. Et la deuxième, c'est mettre en place des outils de communication pour communiquer le maximum, quoi. C'est ça? Ok.
Ouais, c'est ça, simplifier, avoir le moins de freins pour la communication, que les gens soient plus facilement accessibles, quoi.
Ok. Ok. Et du coup, j'imagine que si tu devais remonter une boîte demain, tu remonterais une boîte full remote, la même chose, quoi. Sans hésiter. Ouais.
Oui, c'est sûr. Alors, c'est vrai que le remote, ça a des petits penchants, hein, comme on dit, c'est un des défauts, c'est qu'on se désocialise. Et c'est vrai qu'à un moment, j'avais pas des coups de blues, mais j'avais des petites. Je me rappelais quand on était avec les collègues et qu'après on allait se boire une petite bière après le boulot, des choses comme ça que j'ai plus. Mais après je me dis bah c'est tout, c'est une autre façon de vivre et puis bah c'est pas grave, le soir j'appelle des potes et puis on va aller boire des bières aussi quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, et puis là, on est en période de Covid, mais en dehors du période de Covid, tu peux aller bosser ailleurs, bosser dans la boîte d'autres gens, bosser en coworking, et puis. Ok.
Là, c'est aussi ça que j'aime bien, c'est de pouvoir travailler où je veux. Typiquement, il y a un mois, bah, je me suis fait une semaine à Rennes parce que je me suis dit, ok, je peux pas voyager en dehors de la France, mais je peux quand même me faire un petit kiff, aller dans une autre ville que je connais pas, et rien que ça dépayse énormément et ça redonne une petite bouffée d'air frais, quoi. On a l'impression d'être en vacances, même si tu as passé la semaine à travailler, le juste de travailler dans un autre lieu et d'être dans une autre ville, ça c'est vraiment kiffant, quoi.
Ouais, carrément. Bah, écoute, merci, ça m'a fait. C'est hyper intéressant votre expérience, elle est hyper intéressante de voir comment vous avez monté la boîte et puis comment vous avez réussi à grossir. C'est hyper inspirant aussi toute la confiance que vous donnez à vos employés. J'ai rarement rencontré des gens, des boîtes qui faisaient autant confiance à leurs employés. Souvent, tout le monde dit que la confiance est là et que l'ambiance est bonne, mais dans les faits, avoir des gens en full remote que tu laisses faire et que tu harcèles pas et aussi que tu laisses pousser en production sans rien dire et voir après si ça marche pas, je trouve que c'est hyper inspirant. Donc merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te contacter?
Bah, vous pouvez me contacter sur Twitter. Donc mon handle c'est Pierre Noël, PERNOHE2L. Et
Je le mettrai en
généralement je suis là.
description. Ouais.
Ou sur LinkedIn sinon.
Ok, et je mettrai le lien de l'aimlist en description. Faut aller voir si vous avez besoin de faire des campagnes de mail. C'est un outil hyper intéressant. Bah,
Pas
écoute,
hésiter.
merci beaucoup François. Et
Bah,
puis,
merci à toi de m'avoir accueilli.
au plaisir. Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien!